Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Remercions le Seigneur de nous permettre de puiser la nourriture qui nous fait du bien et nous perfectionner encore une fois dans sa vérité. Alors, Jean 19, 30 nous dit: Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans ce message, il va être question de creuser dans la parole de Dieu afin de bien comprendre ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du calvaire. Alors, que veut dire cette phrase qu'il a prononcée juste avant, justement, de rendre l'esprit? Tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli par Jésus-Christ exactement? Alors, en vivant sur terre, en tant qu'homme, Jésus a transmis beaucoup de choses. Il a transmis sa lumière, sa vérité, sa parole. Il a rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Alors, entre autres, hein, donc tout ça, il l'a transmis d'abord aux apôtres, qui l'ont eux-mêmes transmis ensuite aux nations. Il est venu faire ce que Dieu attendait depuis qu'il avait choisi le peuple hébreu, en fait, ce peuple élu. Mais qui n'a pas été capable de mener à bien en fait ce ministère parce que trop têtu. La Bible nous dit que c'est un peuple aux cou raides. Donc il fallait quelqu'un de pur qui ait un véritable lien direct avec Dieu le Père pour qu'il puisse lui obéir totalement. Il nous a également envoyé le Saint-Esprit, son esprit de vérité, en qui nous pouvons et nous devons nous confier librement, pour nous rassurer, nous consoler quand on a besoin. Alors Jean 14, verset 16 nous dit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il faut avoir cette assurance que le Saint-Esprit, une fois qu'il vient habiter en nous, il est là et à chaque instant, on peut faire appel à lui. Alors il fallait que Jésus vive parmi nous en chair, ensuite qu'il meure devant des témoins et qu'il ressuscite d'entre les morts pour venir témoigner de la gloire de Dieu, afin d'accomplir le plan que Dieu avait pour nos vies et ensuite retourner régner dans les lieux célestes, là où est et où a toujours été sa place. Il est venu accomplir les prophéties que Dieu avait annoncées par la bouche de ses prophètes depuis des siècles et que l'on retrouve dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. Il a accompli la loi que Dieu avait donnée à Moïse, mais que les hommes ont déformée et dont ils ont fait un sujet d'idolâtrie, tant ils en ont fait une priorité plutôt que de suivre Dieu lui-même et de chercher à lui plaire. C'est un peu le problème des Hébreux. À présent, nous ne sommes plus seulement obéissants à la loi, mais aussi directement à Dieu. Parce que respecter le Seigneur, c'est respecter sa loi et ses commandements. Galates 3, versets 11 et 12 nous dit: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Jésus est venu dire que celui qui mettra sa foi en Dieu fera de la loi une ligne de conduite. Et que s'il est accusé à tort, Dieu lui rendra justice. Mais que celui qui essaiera de marcher en respectant plus la loi que Dieu lui-même, celui-là sera sous la justice des hommes. Car Dieu a établi des autorités auxquelles nous devons obéir. C'est ça qui guide notre conduite, en fait. Alors, nul ne peut servir Dieu fidèlement s'il est désobéissant. Dieu est un Dieu d'ordre et il ne peut pas agréer la désobéissance ou le compromis. C'est pourquoi il a dû envoyer Jésus pour accomplir le travail que le peuple qu'il avait choisi n'avait pas pu faire en raison de son mauvais caractère et de sa désobéissance envers lui. C'était plus possible en fait demander à un peuple si désobéissant d'accomplir quelque chose, une œuvre si parfaite. La différence, maintenant que Jésus est venu, c'est que nous sommes plus jugés, nous ne sommes plus jugés ni condamnés par la loi, puisque quelqu'un a déjà payé à notre place le prix de notre condamnation. Alors, on est d'accord, on est en train de parler là de condamnation éternelle. Par rapport à notre deuxième vie, en fait, notre vie éternelle. Donc, si on sert Christ et qu'on vole ou qu'on tue ou, je sais pas, qu'on grille les feux rouges n'importe comment ou voilà, qu'on bouscule les petites mamies, enfin voilà, qu'on fait des choses immorales, n'importe quelle chose interdite qui est répréhensible en fait par la loi, pour laquelle on pourrait être condamné, bah, il est évident que on va devoir quand même répondre de nos actes devant la justice. Dieu ne va pas nous gracier de ça parce que il ne va pas cautionner qu'on puisse faire des choses comme ça, alors qu'il nous dit d'aimer notre prochain et justement de ne pas le voler, de ne pas le trahir, de ne pas faire de faux témoignages contre lui. Voilà, tout ça, en fait, on ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur si on ne respecte pas ça. Proverbe 17,15 nous dit: Le Seigneur déteste autant celui qui déclare innocent un coupable que celui qui condamne un innocent. Dieu est un Dieu d'ordre et donc il ne peut pas gracier un coupable. Voilà. Par contre, il va nous gracier quand on va venir demander pardon. Voilà, lui, il a ce pouvoir-là. Mais si on a des casseroles et que on doit répondre de la justice terrestre, eh bien, il va nous donner la capacité justement d'assumer nos actes et de purger notre peine pour être en accord justement. Il ne va pas permettre qu'un coupable soit gracié devant un tribunal au détriment d'un innocent. Il y a des témoignages édifiants, très touchants justement, de gens qui ont connu le Seigneur en prison et qui témoignent justement du fait que voilà, ils avaient cette colère d'être en prison, etc. Bah, cette colère qui les avait menés aussi à commettre des choses immorales. Et quand même, quand ils purgeaient leur peine en prison, ils étaient quand même en colère. Et, voilà, ils n'étaient pas en paix, quoi. Et ils témoignent que ces gens-là témoignent que quand ils ont connu le Seigneur, c'était clair pour eux qu'il fallait aller au bout de cette peine, parce que ça les mettait en accord avec la volonté de Dieu et ça les mettait en accord avec la dette qu'ils avaient ici par rapport à la justice terrestre. Donc ils ont bien fait la différence en fait entre la grâce qu'ils recevaient pour leur vie par le Seigneur et la peine qu'ils devaient purger. Et la grâce qu'ils devaient recevoir à la fin de leur peine, en fait. Voilà. Donc, si le Seigneur a donné ses lois au départ, c'est qu'il savait en fait que les êtres humains avaient besoin d'un cadre à ne pas dépasser. Il leur fallait des consignes pour garder une vie rangée, une ligne de conduite à suivre. On le voit avec Adam et Ève, qui avaient, eux, toutes les libertés qu'ils auraient pu souhaiter, sauf une chose qu'ils ne devaient pas faire. Eh ben non, il a fallu en fait qu'ils se créent des problèmes en faisant justement cette chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Alors sous influence, hein, évidemment, on le sait bien. Et de nos jours, on voit bien que les règles et les lois les plus fondamentales, en fait, sont bafouées. On assiste à à une véritable rébellion humaine, hein, contre les lois de Dieu, évidemment poussée par des entités spirituelles qui travaillent dur pour égarer un maximum de gens, hein. On le voit avec l'autorité des parents sur leurs enfants de plus en plus inexistante. C'est-à-dire, les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants dans le sens où voilà, il y a corriger et corriger, on est bien d'accord, hein. Enfin, pour moi, il y a corriger et maltraiter. Voilà. Ben, on n'a plus le droit de corriger nos enfants quand ça s'avère nécessaire. Maintenant, il suffit pas de taper pour corriger, on le sait bien, hein. Mais voilà, tout ça, c'est pour montrer que les parents n'ont plus vraiment le droit d'avoir l'autorité de parents sur leurs enfants. Que la loi sur le mariage, alors là, est complètement détournée entre le mariage homosexuel, le mariage entre couples. Il y a aussi dans certains pays des mariages d'êtres humains avec des animaux ou des végétaux. Enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça en Italie où une dame a épousé un arbre centenaire. Enfin bon, bref. Ça devient n'importe quoi en fait. Donc Jésus, lui, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors, ce qui veut dire que si vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie, il va vous guider par son Saint-Esprit de façon à ce que vous ne sortiez pas trop du cadre. En tous les cas, vous devriez avoir un gros changement dans votre vie, celui du rejet de la haine, pardon, du rejet, oui, de la haine quelque part, mais du rejet du péché et de la haine du péché. Donc c'est donc à lui que nous devons nous en remettre pour toute chose. Alors, il nous est demandé de respecter les autorités en place. Parce que c'est Dieu qui permet à chaque dirigeant d'être là où il est, afin d'accomplir son plan pour ce monde. Et nous, nous devons prier pour ces dirigeants, ces autorités, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être des dirigeants de pays, des ministres, aussi bien que des députés, des policiers, des maires, ou toute autre personne ayant une autorité quelconque, en fait, ou des chefs d'entreprise aussi, hein. Ça peut être, voilà, à partir du moment où on a possibilité d'avoir une autorité quelconque, ben il faut que nous, enfants de Dieu, on prie pour ces gens-là. Voilà, pour toutes ces personnes-là. Encore plus si ce sont des frères et sœurs en Christ. Alors, Psaume 5, 75, pardon, verset 7, nous dit, Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Entre autres choses, c'est pas à nous de dire si quelqu'un n'est pas au bon poste. Parce que si c'est un poste que une personne a mal acquis, de façon pas honnête, Dieu fera justice et il abaissera le tricheur au bon moment. Il faut avoir confiance en lui. Nous, nous devons garder les yeux fixés sur lui, prier pour le salut de ces gens, surtout, et prier pour que nous, le Seigneur nous donne la force de résister, de rester droit et intègre envers Dieu dans les situations difficiles. Alors c'est ça que Jésus a accompli aussi, hein. C'est cet accès-là qui nous donne justement le champ libre pour accéder à sa présence. Alors en sachant que si nous... on fait quelque chose de pas bien, bah, il nous justifie si nous venons à lui avec un cœur repentant et sincère. Il nous rend justice si nous sommes accusés à tort. Nous devons marcher par la foi, même dans les moments les plus sombres. Jésus est notre lumière et notre appui. Matthieu 10, au verset 19, nous dit, Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alors, si donc les chrétiens étaient tenus à la stricte application de la loi, cela signifierait que Jésus a échoué à accomplir ce pourquoi il est venu. Mais en fait, il n'en est rien. Jésus est parfait en tout. Et la vérité, c'est que il a parfaitement accompli et était au bout de son ministère pour tous les pécheurs, peu importe leur degré de péché. C'est pas à nous de déterminer si ils peuvent recevoir la grâce de Dieu. C'est pas à nous de juger. On n'est pas juge, nous, hein. Donc Jésus nous dit que la loi est bonne parce que lui-même a été élevé dans le respect de la loi juive. Il a toujours respecté cette loi. Mais c'est lui à présent qui nous permet à nous aussi, qui n'étions pas nés juifs, de vivre dans sa liberté. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'au départ, le salut était quand même accordé. C'était le peuple hébreu qui était choisi. Hein? Voilà, donc, et ça aurait dû être le peuple hébreu qui aurait dû faire justement le travail que Jésus a fait pour apporter le salut. Mais Dieu a choisi donc un hébreu, un juif, mais parfait, puisque c'était son fils. Et comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà, il faut pas oublier que nous, on a quand même ce privilège, cette grâce de pouvoir maintenant marcher dans la liberté quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur pour notre vie, hein, comme Seigneur et Sauveur. Donc il est notre sabbat, il est notre repos, Jésus. Et c'est en lui qu'on vient se reposer, c'est à lui qu'on se confie, c'est sur lui qu'on s'appuie. Et par son sacrifice, en fait, toute personne le recevant comme Seigneur ne se voit plus obligée d'être réglementée dans ses temps ou ses lieux de prière, ni dans son alimentation ou dans les jours de célébration du sabbat, parce que il dépose le sabbat en nous, en fait. Et il nous allège de toutes ces injonctions. Il nous permet de nous recueillir à chaque instant, où que nous soyons, pour entrer en contact avec lui. Voilà, par son esprit, en fait, on a ce lien direct, comme il l'avait avec son père quand il était là, en chair, sur cette terre. Alors, par la bénédiction de nos repas, il sanctifie tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit, ce qui nous permet de manger justement en toute liberté bah, de la viande ou je sais pas quoi, qui pouvait être un peu interdit. Avant, sous le coup de la loi. Et puis aussi, lorsqu'on est invité bah, chez des gens qui pratiquent, par exemple, une religion avec des préceptes alimentaires stricts, et bah, nous, voilà, il nous suffit de rendre grâce avant le repas et on bénéficie justement de la sanctification que le Seigneur apporte à tous ces aliments. Colossiens 2, versets 20 à 22, nous dit, si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. C'est-à-dire bah, que quand on les mange, après, bah, voilà, hein, on sait bien où elles vont. Donc, et ensuite, il nous est dit, il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Bah, ce passage, il est très intéressant, hein, justement, hein, parce qu'il explique bien le travail que Jésus a fait. Hein. Voilà. Et que d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes n'avaient pas saisi hein, jusqu'à ce que. Voilà, Pierre et cette révélation. Alors, en conclusion, donc ça va être un peu grande conclusion, mais en conclusion, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a d'interdits, et plus ces choses vont nous attirer. Un peu comme les enfants attirés à faire des grosses bêtises parce que justement, ces choses-là sont interdites. Jésus, lui, vient non plus pour interdire, mais pour expliquer pourquoi il n'est pas recommandé ou nécessaire de faire ces choses. La loi nous condamne lorsqu'on commet une infraction grave, par exemple, et puis même après avoir été jugé, avoir purgé notre peine, notre dossier est toujours là pour nous rappeler, ou à nous ou à un éventuel employeur, par exemple, que nous avons fauté dans le passé. Selon ce monde, un repris de justice, par exemple, repentant et sincèrement prêt à rentrer dans le droit chemin à sa sortie de prison, sera toujours jugé en fonction de ce qu'il a fait auparavant. Dieu, lui, nous pardonne, mais en plus, il efface notre ardoise. Lorsque nous demandons pardon et souhaitons sincèrement changer de vie, Jésus, il est là, il nous tend les bras et il nous aide dans ce sens. Il est notre avocat auprès du Père et notre juste juge, nous dit la parole de Dieu. Il nous fait accéder à ce privilège royal. Lorsque on devient enfant légitime de Dieu, sa grâce, elle est complète et suffisante pour tout ce dont on a besoin. On est alors citoyen du royaume de Dieu, officiellement. Jésus, il nous lègue à ce moment-là tout ce pour quoi il a donné sa vie, ses dons, sa foi, le salut, la vérité, sa puissance, son esprit, une nouvelle identité, une nouvelle espérance, la vie éternelle, enfin bref, tout, tout, tout. La liste est longue. Alors tout ce qu'il est venu accomplir, il nous le donne, en fait. C'est gratuit, mes frères et sœurs. Nous sommes sous la grâce et justifiés. Et nous sommes à ce moment-là dignes de nous présenter devant notre Père parce que Jésus efface notre dette à tout jamais. Il fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes sous la protection divine, ce qui nous confère une immunité royale quelque part. C'est bien mieux que l'immunité diplomatique que le monde peut proposer, hein. Bon, je préfère l'immunité royale. Ça veut dire qu'on est intouchable, ce qui énerve quand même un petit peu notre ennemi, hein, il faut le dire. Mais c'est pas grave parce que auprès du Seigneur, tout est infiniment sécurisé. Donc, ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut quand même cependant prendre bien conscience de cette liberté que Christ nous donne, parce que sinon, on serait susceptible de continuer à subir et être enchaîné, ce qui bloquerait aussi notre croissance spirituelle, notre croissance en Jésus. Jésus-Christ, par son pardon, il brise les liens du péché qui nous liaient à Satan. Nous devons accepter cette vérité pour que Dieu agisse dans nos vies, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent encore, je dirais, en dessous du seuil de richesse qu'ils ont reçu. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus avertit une certaine église en disant, attention, parce que toi, tu te crois riche, mais en fait, tu es pauvre. Ce qui veut dire par là, c'est si je ne suis pas dans ta vie, t'as pas de richesse. Tant que tu n'as pas accès aux richesses du royaume, t'as pas de richesse. Tu peux croire que tu as beaucoup de richesses ici, mais c'est faux. Et c'est comme ça qu'on vient complètement pauvre quand on vient à Christ. Et lui, justement, il nous donne en héritage le royaume. Donc, il nous rend riches. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience des richesses qu'ils ont reçues. Déjà, cette première richesse d'avoir le pardon de nos péchés, quoi, d'avoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est incommensurable comme richesse. Donc, ils vivent encore comme s'ils étaient enchaînés, quoi. Alors c'est comme si on disait en fait à un prisonnier qu'il est libre et puis qu'il refusait de sortir de prison. Eh bien, c'est dommage parce qu'on ne rentre pas dans le plan que Dieu a pour nous, pour notre vie, dans ces cas-là. Donc Jésus, il est venu pour rétablir la paix entre l'être humain et son créateur, son Père. Il est venu non pour juger le monde, nous dit la parole, mais pour le sauver. Il a donc accompli le salut pour le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie. Et c'est la plus grande chose qu'il est venu accomplir. Voilà, et je terminerai comme je fais habituellement avec un verset pour vous encourager. C'est dans 1 Jean chapitre 4 au verset 16 qui nous dit: L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voilà, donc n'oublions pas que toutes choses ont été faites par lui Et notre vie, si on veut qu'elle soit bien menée, il faut la vivre par lui. Voilà, shalom à tous mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.